Bienvenue à tous dans le second épisode de Rembobiné. Je vais vous présenter la merveilleuse équipe qui est avec moi. On commence par Dauphine. Salut Dauphine.
Bonsoir à tous.
Je suis avec Eloi, le bot de Making of. Je te laisse te présenter.
Bah écoutez, moi je suis un bot et très fier de l'être. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et enfin, je suis avec Merle.
Salut tout le monde. Sobre.
Toujours là, toujours présent. Toujours là. Mon fidèle acolyte. C'est pas impossible qu'il y ait des intervenants supplémentaires au cours du podcast. On est assez libre là-dessus.
Pour ce deuxième épisode de Rembobiné, on voulait aborder un thème qui fait l'actualité depuis quand même quelques années maintenant, parce qu'on peut dire que effectivement la consommation de séries, elle a tout bonnement explosé depuis le début du XXIe siècle, notamment grâce à l'influence très forte qu'ont eu des séries produites par HBO comme Les Sopranos ou The Wire, et qui ont vraiment amené la série, même en termes de qualitatif, à un cran supérieur. On est allé bien au-delà de ce que pouvaient proposer des sitcoms, autant sur le plan de la narration que sur le plan de la réalisation. Et ça a entraîné un regain autour de la série. Et on peut dire qu'aujourd'hui, donc même 20 ans plus tard, elle concurrence véritablement le cinéma en termes de pure consommation et de place dans la vie des gens. Et même, à bien des égards, peut-être même qu'aujourd'hui, la série, en termes de popularité, surpasse le cinéma. Et donc on avait envie d'un peu de comparer ces deux genres, de voir à la fois comment ils se distinguent et comment ils s'influencent mutuellement, parce que c'est des espèces de frères ennemis, si on veut. Ils ont à la fois presque tout en commun, et en même temps on peut pas s'abaisser à vraiment les rapprocher et à les mettre sur le même pied. Spontanément on aurait du mal à comparer une série et un film, et pourtant si on y réfléchit bien, les différences sont peut-être pas si évidentes. Et c'est ça que je pense qu'on avait envie de questionner ensemble aujourd'hui.
Eh oui, tout à fait.
Donc, si quelqu'un a une première remarque à faire.
Quand même, la différence première, c'est le format. Genre, ouais. Commencer par là. Une série, t'en as pour au moins 10 heures sur une saison. Enfin, les séries avec une dizaine d'épisodes de 1 heure chacun, quoi, en gros. Si on prend un format un peu répandu, ce qui est quand même totalement différent d'un long métrage, quoi. Qui dure entre 1h30 et 3 heures, selon les genres, etc. Donc en vrai, il n'y a pas le même investissement émotionnel, je pense. Enfin, déjà, quand tu mates un film, t'en as pour une soirée. Enfin, éventuellement, tu te fais toute une saga d'un coup, tu passes la soirée, la nuit, etc. Mais la série, c'est un truc que tu regardes plus dans la durée, que tu regardes avec des interruptions aussi, souvent. Enfin, c'est rare de se mater une saison entière d'un coup, sans faire de pause, sans même aller pisser entre deux épisodes. Et du coup, je pense que ça, quand même, c'est un point qui est important.
Moi, ce qui m'intéresse dans ton point de vue sur le format, c'est aussi au niveau de l'écriture. Je sais pas si peut-être quand j'en parle trop tôt là, je sais pas trop.
Ouais, parce que pour moi,
si vous voulez, on continue.
J'aurai déjà des choses à discuter. Parce que le truc, c'est que Eloi, factuellement, dans 95% des cas, t'as raison, mais il y a beaucoup de cas limites qui viennent un peu flouer justement la différence qu'il y a entre les deux. Enfin, je veux dire, on a d'un côté des séries qui vont être très courtes, parfois ça existe des séries qui durent 4-5 heures, et d'un autre côté il y a certains films qui durent 10 heures, ça existe.
Je sais que
et donc
existe.
Finalement la différence commence à être encore plus difficile à saisir, parce que je sais pas, moi là par exemple, un truc qui m'a interpellé, je me rappelle au moment où The Irishman était sorti sur Netflix, il y avait eu des débats qui disaient que peut-être qu'il serait coupé en plusieurs parties. Bon, s'il avait été coupé en plusieurs parties, foncièrement, ça aurait pas été une œuvre différente, mais on l'aurait considéré comme une série. Mais finalement, le fait de la considérer comme une série, c'était arbitrairement parce que elle avait été coupée à certains endroits, quoi. Donc, et je veux dire, est-ce que au-delà de cette décision un peu arbitraire de couper à certains endroits, on peut déceler des éléments qui vraiment impriment un peu plus profondément cette rupture qui existe entre ces deux médiums?
Y a quand même pour moi une différence, c'est que quand tu fais une série, et c'était ce qu'allait dire Godefroy, t'écris un épisode pas de la même manière que quand t'écris une scène dans un film. C'est-à-dire que si t'avais coupé The Irishman, qui est effectivement un film qui dure suffisamment longtemps pour être coupé en trois parties, mais le truc c'est que si tu coupes The Irishman après un tiers, t'as aucune conclusion, ta structure scénaristique elle tient pas la route. Parce que ton épisode, il se termine sur du néant, quoi. Alors que dans une série, même si la saison globale suit un arc narratif, chaque épisode suit un arc narratif un peu qui lui est propre, en tout cas. Et ça, quand même, cette histoire de différence sur la façon dont les épisodes sont construits par rapport à des bouts de film, d'un point de vue purement de la narration et de l'écriture, c'est un point qui est genre fondamental. Donc là, il y a, enfin, c'est pour ça qu'on peut pas juste dire, bah, il y a des séries qui sont comme des, enfin, il y a des séries qui seraient des films coupés, quoi, parce que voilà, quoi.
Non, ouais, non, mais clairement, le grand objet filmique qu'a imposé la série, c'est un peu la dictature du cliffhanger. C'est-à-dire que à chaque fin d'épisode, à chaque fin de saison, il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne envie de continuer, en fait. C'est un peu ça. Je pense que l'approche globale du showrunner, enfin du faiseur de série, en gros, n'est pas du tout la même que celle du réalisateur de cinéma. Même si y en a qui savent faire très bien les deux, et il y a plein d'exemples qui le prouvent. Mais je pense que la différence majeure, c'est quand même que pour moi, la série, c'est vraiment la chose essentielle qui caractérise une série, c'est avant tout son scénario. Et alors que ce qui caractérise un film, c'est pour moi, en tout cas à titre personnel, il y a tellement d'autres choses que le simple script. Il y a toute la mise en scène, et je pense que même s'il y a des séries qui arrivent à faire de très belles choses dans la mise en forme, dans la réalisation, etc., c'est quand même pas la majorité des séries, surtout des séries, disons, Netflix, qui sont vraiment produites plus à la chaîne, et où clairement, c'est le scénario qui prime avant tout sur... en tout cas, le scénario qui a pour objectif de capter l'attention du spectateur.
Ouais, parce que finalement... moi, je dirais que la différence majeure entre le cinéma et les séries, ça serait plutôt, plus que dans la durée, ça serait dans le morcellement. Parce que du coup, les séries, comme on l'a dit maintes fois, sont découpées. Et donc, c'est ça qui va faire que chaque partie du film va avoir un début et une fin, qui va faire... c'est ça qui fait apparaître le cliffhanger. Et pour moi, c'est intimement lié à la logique commerciale que je trouve bien plus omniprésente dans les séries démocratisées aujourd'hui. Donc je parle pas bien sûr des séries un peu d'auteurs et tout ça, mais pour moi, le fait que les séries soient morcelées et cette fragmentation, elle va vraiment être à l'origine de... Enfin, elle, c'est assez révélateur d'une forme d'industrialisation, comme tu disais, Godefroy, une production à la chaîne. Et chaque épisode va être une nouvelle manière de maintenir le spectateur en haleine et de le pousser à consommer plus. Et c'est vraiment cette logique-là qu'on retrouve moins dans le cinéma. Quand on regarde un film, on le regarde d'une traite, sans entracte, à part si c'est pour faire une pause... qui n'est pas à la base voulu par le réalisateur, quoi.
Juste pour préciser quelque chose et revenir un peu littéralement sur du coup sur le principe du cliffhanger, on peut quand même noter une évolution au sein même de la, pas forcément de la production de la série en elle-même, mais plus de sa distribution et de sa mise en avant par les plateformes de streaming. C'est qu'avant, enfin en tout cas au début de la série, et HBO continue de le faire sur les séries, sur certaines séries à grand succès comme Game of Thrones par exemple. C'est qu'avant, pour regarder une série, il fallait attendre en gros toutes les semaines que le nouvel épisode sorte, alors que maintenant, pour la majorité des séries Netflix et la majorité des séries Prime Video par exemple, sauf American Gods récemment, mais en gros ils sortent 10 épisodes d'un coup, ce qui encourage le phénomène bien connu du binge-watching, et qui je pense change totalement le prisme d'appréciation du spectateur. Ça n'a rien à voir de... Parce que le cliffhanger, c'était quand même pour faire en sorte qu'en gros, tu regardes un épisode et la semaine d'après, t'as envie de... Enfin, tu bloques ta soirée, quand c'était diffusé à la télé, tu bloques ta soirée pour continuer la série. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça sur le format.
Ouais, non, ça c'est vrai, t'as raison dans le sens là où le cliffhanger a, comme tu dis, effectivement complètement changé de nature. Et là, comme vous l'avez tous plus ou moins dit, il sert... Enfin, son objectif numéro un, c'est à t'accrocher à ton écran et que tu le lâches pas jusqu'à que t'aies fini la saison. Et en fait, pourquoi ça marche très bien ? Ça marche très bien parce que Netflix produit une nouvelle série toutes les semaines. Et donc le but, c'est qu'effectivement, tu t'attardes pas sur une série pour que tu aies le temps d'en commencer rapidement une nouvelle et que ça s'arrête jamais. Donc quand on parle des plateformes de vidéos à volonté, là, c'est vrai que ça marche très très bien. Mais là, tout de même, on ne parle pas de la série essentiellement, quoi. On en parle vraiment dans un cas très particulier et la manière dont elle est exploitée par certaines boîtes. et bah, notamment Netflix, parce que c'est quand même un peu la reine de celle-ci, quoi. Mais je veux dire, j'ai quand même, je trouve que même si le cliffhanger est très, enfin je veux dire, là depuis le début vous êtes tous en train de plus ou moins de critiquer le format de la série en disant ah, c'est horrible, c'est la consommation, la série, ouais, et tout. Et en disant, non mais surtout ce que je trouve drôle, c'est en disant, alors que quand même le cinéma, ah, le cinéma c'est noble, le cinéma il n'y a que de la noblesse, c'est vraiment le cinéma, c'est le grand art, quoi. Alors que bon, excusez-moi, bon alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu beaucoup d'affiches de cinéma, mais quand on passe devant un cinéma, la plupart des affiches, bon, moi personnellement, elle me donne pas une idée de noblesse, quoi. C'est pas vraiment ça. Entre, je sais pas, Bienvenue chez les Ch'tis, Taken 5, ou je sais pas quoi d'autre. Bon, voilà. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de films aussi qui sont nazes, qui, bah pareil, on parlait aussi du rapport réalisation ou pas, etc. Bon, bah pareil, en vérité, la majorité des films, je veux dire, quantitativement, bah, ils sont super mal réalisés. Et ils apportent rien. Et au final, c'est pareil. J'ai l'impression, alors c'est vrai que pour des raisons plus ou moins historiques, bah la série, elle accorde plus d'importance à la narration, et le fait qu'il y ait eu des vrais réalisateurs qui s'y intéressent, c'est un phénomène intéressant. Mais j'ai l'impression tout de même que si on regarde les grandes séries des 15-20 dernières années, les très grandes séries, bah parfois, alors c'est vrai que c'est difficile à tenir sur le... Parce que oui, comme on l'a dit, ça dure très longtemps une série, alors peut-être que sur 40 heures, c'est difficile d'avoir un niveau de réalisation... aussi élevé que sur une heure et demie, mais parfois quand même on a des choses intéressantes. Et moi, bon, là récemment, alors en plus là je suis à fond dedans parce que j'ai fini récemment, mais j'ai vu The Wire, c'est extraordinaire, et ça se tient du début à la fin sur 5 saisons. C'est le portrait d'une ville comme jamais j'en avais vu avant, et même là je crois que pour le coup le format série il est d'une pertinence rare, parce que je pense que c'était impossible de faire un truc aussi précis sur 2 heures ou même 3 heures, et qu'on avait besoin de cette vingtaine, trentaine d'heures pour faire un truc aussi complet et finalement aussi fort, artistiquement, vraiment.
Non mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'en tout cas, il n'y a pas à choisir en tout cas un camp forcément entre le cinéma et la série, surtout quand tu regardes la qualité purement réelle des deux objets. Mais il y a quand même un vrai tournant qui est, comme on l'a dit, la révolution HBO, parce que franchement, les séries dans les années 70, c'était vraiment considéré comme, bah, à part certaines exceptions comme la quatrième dimension, mais la plupart des séries, c'était vraiment considéré comme des trucs, vraiment pour se vider la tête. Ouais. Il y a eu un changement radical d'opinion, et surtout, je pense, de l'opinion intellectuelle sur les séries, qui clairement a légitimé totalement le fait que en gros une grande série c'était comme un grand film, et que tu pouvais être une série et être un chef-d'œuvre, en fait. Et The Wire c'en est l'exemple parfait, et Les Sopranos par exemple aussi, et même plus récemment je pense que des séries comme Breaking Bad etc sont considérées par énormément de gens comme des chefs-d'œuvre, et pas que par des gens et aussi par des professionnels du cinéma et des critiques très très reconnus.
Bah sur la qualité intrinsèque, genre je suis d'accord. Après, il y a quand même un truc pour moi qui m'est venu un peu à l'esprit quand tu parlais des habitudes de la façon dont on regarde des séries, et en gros on va binge-watcher et passer à la suivante. C'est que c'est vrai qu'il y a des séries qui sont vraiment ouf, mais c'est très très rare qu'on regarde une série. Enfin, je sais pas si ça vous arrive souvent, mais la vérité c'est que la probabilité que tu te remates les 5 saisons de The Wire, elle est quasiment infime.
Ouais, ça.
Après, je regarde pas les films non plus, des fois.
C'est vrai que même moi, je revois rarement les films.
Ouais.
Moi, bah, ça m'arrive de temps en temps, ouais, mais à part la première saison de True Detective, j'ai jamais regardé une saison de série quelconque. Et je pense ça quand même par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y ait des séries qui soient des chefs-d'œuvre, effectivement. Mais d'un autre côté, il y a ce côté consommation tellement instantanée qui fait que, bah ouais, c'est des chefs-d'œuvre, mais c'est des chefs-d'œuvre qu'on, d'une certaine manière, qu'on respecte pas assez, parce que on va se dire putain c'était génial, c'était incroyable et tout, mais d'un autre côté on va, c'est tellement rare du coup qu'on se pose et qu'on se dise bah qu'est-ce que je vais faire, bah je vais remater tel truc, je vais me refaire ça parce que j'ai envie de prêter attention à des détails que j'avais pas vus, parce que sur 10 heures de contenu il y a sûrement des détails de mise en scène que j'ai pas vus, des trucs machin tout ça. Et ce qui fait que moi j'aime bien quand je regarde un film qui dure 3h30 du style Il était une fois en Amérique, me dire ben je vais le mater une première fois, comme ça j'ai l'histoire en tête et tout. Je vais laisser s'écouler 2 semaines et je vais le remater pour voir ce qu'il y a dans ce film vraiment. Ça, c'est un truc qu'on fera pas.
T'es un peu passionné, mec.
<C'est>... Bah non, mais parce que genre, à un moment donné, sur des, c'est pour ça que quand même la durée, à mon avis, a son importance, c'est que sur des trucs qui sont, qui passent une certaine durée, parce que on peut pas être attentif trop longtemps, surtout surtout si on voit tous les épisodes de manière très resserrée, il faudrait pouvoir se repencher sur les épisodes de manière un peu précise, un peu méthodique et tout. Et c'est un truc que, qu'on fera pas vraiment, quoi. Et donc ça, de ce point de vue-là, il y a quand même pour moi une différence fondamentale, et c'est un peu dommage.
Après, juste pour rebondir deux secondes, hein, c'est hyper court. Bah, comme disait Sam tout à l'heure, tu parles quand même. Enfin, il y a quand même un certain pourcentage de séries qui répondent à tes critères que tu peux revoir. Il y a de plus en plus de mini-séries. Il y a déjà eu. Enfin, les séries d'anthologie, ça existe depuis. Bah, je citais tout à l'heure La Quatrième Dimension. Black Mirror, forcément, c'est l'exemple très récent. Et puis, en dehors des séries d'anthologie, t'as toutes les mini-séries. Et là, par exemple, il y a Small Axe de Steve McQueen qui est sorti. Enfin, il y a quand même deux épisodes, enfin, épisodes, on se filme, enfin, deux chapitres, on va dire, de Small Axe qui ont été sélectionnés au Festival de Cannes. Donc, à partir de ce moment-là, et pourtant, c'est quand même considéré comme une série si tu vas sur, si tu regardes sur Salto, du coup, qui est une très belle plateforme, c'est quand même considéré comme une série. Du coup, voilà, la frontière est toujours un peu floue, et de plus en plus. Et il y a de plus en plus de mini-séries, et surtout sur HBO, notamment. Donc voilà.
D'autant plus que, oui, en plus, bon, c'est un truc dont beaucoup de personnes parlent, donc ça va pas être très original, mais il y a l'autre volet qui est qu'aussi certaines sagas se rapprochent de plus en plus du format sériel, et donc là encore, c'est la même chose. Bon, bah, quand une saga fait 20-30 films, et ils font tous une heure et demie, donc finalement, ils sont tous à peine plus longs qu'un épisode de série, pourquoi on appelle ça encore du cinéma? Enfin, c'est. Quelle est la raison véritable? Et c'est pareil, qui va se la retaper? Enfin, à part, je sais même pas d'ailleurs qui serait capable de se retaper tous les Avengers, enfin, la saga.
Qui les a tous vus déjà?
Déjà. Il y en a, hein, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais. C'est compliqué, hein, mais voilà.
C'était pas Martin Scorsese en tout cas.
Non. Ah oui! Je l'ai aimé pour avoir écrit cette tribune. Non, mais voilà, donc c'est. Je sais pas, enfin, j'ai l'impression que la frontière devient de plus en plus floue, et finalement, enfin, s'il n'y avait pas un espèce d'héritage historique à ces définitions, si en fait on était aujourd'hui téléporté dans un monde, tu savais pas ce qu'était une série, tu savais pas ce qu'était. Enfin, on t'expliquait très rapidement et on te mettait en face à des œuvres, je sais même pas. Enfin, je pense que dans certains cas, tu serais gêné, tu saurais pas clairement dire si t'es en face de cinéma ou de série.
Historiquement, ça vaut aussi pour d'autres formes d'art, et quant à les. Enfin, d'immenses romans de la littérature française et mondiale qui ont été publiés sous forme de feuilleton dans des journaux. Enfin, à l'époque, on aurait pu considérer ça comme l'équivalent de la série, alors qu'au final, maintenant, enfin, tu dis pas que, je sais pas, les Rougon-Macquart, c'était à la base plein de feuilletons. Donc voilà, quoi. C'est aussi une question toujours de regard historique dans un contexte donné.
Ouais, bien sûr. Après, je veux pas partir dans une digression sur les livres et la littérature en général, mais de toute façon, enfin, surtout sur les Rougon-Macquart, c'est des livres qui sont suffisamment épais pour que ce soit rare qu'on les lise en une seule fois, quoi. Même à l'heure actuelle. C'est ça. Donc à partir de là, il y a quand même. Enfin, on en revient à ce qui a été dit au tout début, quoi, sur la durée pure. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve qui ressort de ce qu'on dit là, c'est qu'il y a il y a une piste à creuser en termes de format. Un truc, on voit que la frontière devient de plus en plus floue entre ciné et série de ce point de vue-là. Il y a cette idée de format, il y a aussi une idée de contenu. Parce que malgré tout, on le disait au début, par rapport à ce qu'on regarde dans une série ou ce qu'on regarde dans un film, enfin, on peut se taper des films assez contemplatifs. Voilà, on peut mater du Terrence Malick si on a envie. J'attends de voir lequel va être l'équivalent sériel de Terrence Malick.
Ça, c'est vrai.
Qu'est-ce qui fait. Non, mais. Parce que moi, l'idée qui irait contre ça et qui me vient en tête tout de suite, c'est. Mais qui va se taper 10 heures de.
Terrence Malick.
10 heures de Terrence Malick. Enfin, c'est des films avec des rythmes tellement lents et tellement posés qu'on va se dire, mais ça correspond pas au niveau.
Mais ça existe. Il y a la série de Nicolas Winding Refn sur Prime Video. C'est 10 heures. C'est même plus que 10. C'est 10 épisodes d'une heure et demie, un peu comme ça.
Mais c'est atroce.
Ouais,
ceci dit, maintenant je dis ça, oui, c'est vrai. En fait, je pense qu'il y a une raison assez simple et qu'on n'a pas évoquée, et qui est pourtant originellement la vraie différence entre la série et le cinéma, c'est que la série, c'est fait pour la télé.
Bah oui, c'est ça.
Et le cinéma, c'est fait pour le grand écran.
Tout à fait.
Et en fait, effectivement, si tu regardes quelque chose sur un petit écran qui est à 10 mètres de toi, bon bah les belles images contemplatives elles vont avoir un impact beaucoup moins fort en fait. Et donc effectivement, et là je pense que l'une des des vraies raisons pour laquelle en fait la série a mis l'accent sur la narration et a eu tendance à peut-être parfois oublier ou laisser un peu de côté l'image, c'est le fait que tout simplement l'image est moins visible en fait quand tu regardes une série en principe. Et mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui c'est plus tellement vrai. Même notre consommation de cinéma elle se fait de plus en plus soit par la télé ou même par l'ordinateur et pour certains fous sur le téléphone. mais donc là encore ça questionne ça parce que est-ce que même on doit donc changer notre manière de faire du cinéma parce que le film sera plus visionné sur le même support et donc est-ce que là encore ça n'a pas tendance à uniformiser les formats parce qu'on sait plus vraiment juste où ils vont être visionnés et encore une fois à mincir cette limite qui sûrement faisait la richesse des deux médiums quoi.
Après juste pour rebondir un peu et pour quand même il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que à nous entendre depuis tout à l'heure, on a l'impression que vraiment la série est en train de prendre est quelque chose de déjà de très mauvais pour l'avenir du cinéma et qui est en train de totalement prendre la place des films en tant que tels. Et franchement, je pense pas du tout. Et quand on voit que il y a quand même relativement très peu de réalisateurs confirmés qui s'aventurent à faire des séries, il y en a quand même franchement peu. La plupart des réalisateurs qui vont voir les plateformes, ils le font pour sortir des films, produire des films qu'ils peuvent pas produire avec des plateformes, par les sociétés de production classiques. Donc, franchement, je m'inquiète pas personnellement, en tout cas pour l'avenir du cinéma. Et je pense pas que la frontière soit si floue que ça non plus entre. Enfin, il y aura toujours. Je pense que le cinéma, en tout cas pour les années à venir, restera le format classique, ça restera le film de 2 heures, quoi. Donc le long métrage de 2 heures.
Parce que pour moi, en fait, la série et le cinéma, ils accomplissent pas des fonctions, pas les mêmes fonctions. Donc c'est pour ça que pour moi, l'un ne remplacera jamais l'autre. Je suis d'accord. Parce que, enfin, par rapport à du coup l'histoire, donc, comme tu disais Sam tout à l'heure, de la série comme étant associée un peu au feuilleton télé et le cinéma au grand écran. C'est pour ça que dans le cinéma, vu qu'on va avoir plus de travail sur l'image, souvent, je parle bien sûr en termes de généralité, on va avoir plus de choses suggérées et d'implicites, alors que dans les séries, donc il y a ce travail sur la narration qui peut être une richesse en fait, qui peut être un avantage, justement le fait qu'il y ait plusieurs épisodes, ça va permettre une plus grande précision. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et cette précision-là, elle peut apporter quelque chose. Mais souvent, en fait, dans beaucoup de séries, il y a souvent, on peut retrouver une certaine forme de maladresse dans le sens où les réalisateurs pourraient dire moins. Et vu qu'ils ont le temps pour et qu'on leur a dit qu'ils avaient tant d'épisodes à faire, ils ne se gênent pas et ils disent des choses qu'ils ne pourraient très bien, qui pourrait très bien ne pas dire. Et c'est en ça que parfois les séries apparaissent moins nobles et plus avec une fonction qui est plus de l'ordre du divertissement, alors que le cinéma ça serait plus associé à l'art, voilà.
Mais ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais Dauphine, par rapport à la maladresse du fait de l'étirement dans le temps, des séries, dans la durée, le fait que le propos finisse par un peu perdre de sa densité et de son intérêt. Je pense qu'il faut, pour moi là-dedans, il y a vraiment un truc qui est en rapport avec les conditions de production d'une série. C'est qu'à un moment donné, sauf pour éventuellement des grosses prods Netflix ou quoi, il y a des mecs qui sont dans leur coin, qui se disent « je vais faire une série », mais ils se disent pas « je vais faire une série en 8 saisons », ils se disent « je vais faire une saison ». Et en général, du coup, ils arrivent à avoir un propos qui est bien dense. Parce que, d'une certaine manière, la série elle a été pensée initialement pour tenir dans cette saison, dans ce truc-là. Et à mesure qu'on avance dans les saisons, le fait de devoir renouveler sans cesse les enjeux, et je pense que je vais prendre l'exemple des Peaky Blinders, qui est pour moi une série qui était vraiment archi ouf au début, qui était vraiment très bien dans sa première saison, avec à la fois des mecs qui étaient assez flippants, mais qui évoluait dans une échelle assez basse. Enfin, c'était juste des petits caïds, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons, comme chaque saison doit surpasser la précédente, les mecs finissent par, j'allais dire, grossir un peu. Et à partir du moment où ils ont affaire aux Russes, aux Américains, à la Terre entière, il y a un côté un peu illusoire là-dedans. C'est, bah ok les gars, mais genre stop. Enfin, c'est quoi après, une fois qu'ils auront maté tous les bandits de la Terre,
les
aliens. C'est ça, ils vont partir avec leur casquette sur la Lune. Voilà. Non, mais... Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ce qui fait aussi l'essoufflement des séries. C'est qu'à un moment donné, comme les séries sont sur un format qui est globalement sans fin, même si les saisons arrivent à une conclusion, bah quand tu fais en comparant par rapport à un film, quand tu fais un long métrage, sauf éventuellement dans le cadre de grandes sagas, mais disons pour la majorité des films qui se passent sur un film, tu sais qu'à la fin de ton film, t'as fini. Et qui arrive. Enfin, donc tu te dis, je vais tout mettre dans mon film. Il n'y aurait pas de raison de ne pas tout mettre. Alors que là, je peux envisager qu'il y ait un scénariste qui se dise à un moment donné, ah, cette idée-là, elle est pas mal, mais le problème, c'est que si je la mets maintenant, je ne pourrais pas la mettre plus tard. Et j'ai déjà une bonne idée, moi. Et du coup, il y a peut-être sur la façon dont les séries sont produites et l'inconnu de produire une série qui fait qu'à un moment donné, la possibilité de pouvoir se renouveler sans cesse, ben, ça t'amène juste à te répéter. Ou à ne plus rien dire.
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a quand même, il y a quelques contre-exemples parmi des séries quand même assez connues qui étaient vraiment conçues du début à la fin pour durer un certain nombre de saisons. Et genre, je pense par exemple à une série que j'aime bien personnellement, donc Mister Robot, qui est 4 saisons, et pour le coup, le showrunner c'est le même sur les 4 saisons, il a réalisé tous les épisodes, ce qui est très rare quand même pour une série. Ça, c'est quelque chose dont il faudra parler aussi après. Mais et du coup, clairement, même si j'admets totalement que la série a des moments de faiblesse, comme je pense, ce qui est aussi autre chose à soulever, c'est que le format fait que forcément, sur 40 heures de contenu, t'as forcément des moments d'essoufflement, c'est impossible. Mais même un film que tu parlais tout à l'heure de film très long, Sam, un film très long, il y a quand même des moments de moins bien, et bon, voilà, c'est un autre débat. Mais du coup, pour le coup, je pense que ça existe, en tout cas, une série qui, du coup, dans son ensemble, sur plusieurs saisons, quand même, tient un propos cohérent et vraiment réalise la volonté de son showrunner. Et du coup, Mister Robot, c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête parce que tout est calibré de sorte que, en fait, en ayant vu le dernier épisode, il y a toute la série qui te redéfile dans la tête et où tu as... tout était vraiment parfaitement agencé, donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Mais du coup, si vous voulez, on peut aborder du coup le sujet des réalisateurs d'épisodes qui sont pas forcément qui changent régulièrement. Il y avait un mec qui passait par là et qui a entendu qu'on parlait de cinéma, du coup il a voulu parler. On va te laisser la parole, Camille ACBNK.
Super. Oui, j'avais une question donc pour vous trois. D'abord j'avais une petite citation pour vous qui est un réalisateur que j'aime bien, qui s'appelle Xavier Dolan. Donc, pour lui, un film, c'est d'abord quelqu'un qui offre au spectateur sa vision du monde, qui offre une histoire qui est toujours plus ou moins la sienne aussi. Donc, un film, c'est d'abord et avant tout du don de soi. Donc, est-ce que vous pensez que donc, dans les séries qui sont fragmentées et qui changent d'équipe, qui changent de réalisateur parfois au cours d'une saison, on peut retrouver cet aspect et donc, est-ce que vous pensez que, par défaut, une série ne pourra jamais être aussi cinématographique qu'un film? Parce que déjà le format l'autorise moins, mais parce que voilà, on ne retrouvera jamais cet aspect de fenêtre, de vision sur le monde unique porté par un homme, un réalisateur, parce qu'elle n'existe plus vraiment en fait dans une série.
Ouais. Voilà. Bah, y a deux réponses à ça. Premièrement, tout de même, en général, il y a tout de même, même si tu as raison, c'est très très rarement le réalisateur qui est l'homme derrière la série. En général, il y a tout de même un auteur derrière la série, c'est ce qu'on appelle le showrunner, et qui lui, enfin, je sais pas, peut-être que c'est pas le cas tout le temps, mais à ma connaissance, souvent, t'as quand même un showrunner qui tire les ficelles sur toute la longueur de la série, et c'est vraiment son projet, c'est son bébé, c'est un peu l'équivalent de ce que serait le réalisateur sur un film de cinéma. Donc, il y a quand même quelqu'un, au moins, qu'on peut qualifier entre guillemets d'artiste, ou du moins dont c'est la production, vraiment, et l'auteur. Alors, évidemment, quand on dit vision du monde, alors ce qui est intéressant, c'est quand on dit vision du monde au cinéma, c'est qu'on dit littéralement vision du monde. C'est un peu comme si on voyait le monde à travers les yeux du réalisateur et il nous donne à voir le monde tel qu'il le voit un peu, quoi. Bon, là, forcément, c'est différent parce que le showrunner, juste, il écrit et effectivement, derrière, cette tâche-là, il la laisse à des faiseurs la plupart du temps qui réalisent et souvent, ça varie énormément d'un épisode à l'autre, donc ça a été un peu différent. Donc finalement, c'est vrai qu'on va et on va en revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la série accorde plus de place au narratif sûrement qu'au visuel, et que donc ce que va nous laisser la série, enfin du moins l'image va être au service du récit, ce qui est, alors que c'est plutôt l'inverse au cinéma, on a un récit au service de l'image et qui sublime une image, et là je dirais que c'est l'inverse en fait. Voilà, mais donc on aura quand même on peut avoir quelque chose d'intéressant artistiquement, mais d'une nature effectivement autre. Ça sera moins une vision, quoi.
Alors moi, ouais, du coup, je suis pareil, forcément, je suis plutôt d'accord. Il y a quand même un truc pour me placer du côté du réalisateur qui s'aventure à réaliser un épisode de série qui n'est pas sa série. Il y a un truc, c'est on le remarque souvent quand il y a, par exemple, je sais pas, deux épisodes d'une série qui sont réalisés par un réalisateur connu, mais qui n'est pas showrunner de la série en question. Ouais. On remarque que c'est très difficile d'imposer sa patte sur une série, même en réalisant des épisodes, d'imposer sa patte de réalisation sans être showrunner, en fait. C'est ça qui est assez... il y a pas mal d'exemples qui me viennent en tête. Il y a Julia Ducournau, quand même, qui est une réalisatrice. On voit, c'est assez facile de reconnaître sa patte, et qui, genre, a réalisé deux épisodes de la série de Shyamalan sur Apple TV, et genre, vraiment... en fait, elle a... Pour réaliser les épisodes de série, elle a abandonné tout ce qui faisait son grain personnel, quoi. Et il y a d'autres exemples comme ça. Enfin, par exemple, The Eddie sur Netflix aussi, où genre pour le coup, genre Damien Chazelle, enfin, on le reconnaissait assez peu. Mais bon, il y a pas mal d'exemples comme ça. Et c'est aussi, après, il y a aussi l'aspect financier forcément qui rentre en compte. C'est tu réalises jamais gratuitement un truc, et du coup, c'est toujours cool de réaliser des épisodes. Mais bon, je pense pas que ce soit l'épanouissement total du réalisateur pour réaliser un épisode de série, c'est pas un épanouissement total pour un réalisateur.
Ouais, et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y en a que juste ça tente pas vraiment dans la continuité. Parce que genre là, je me souvenais d'une série qui s'appelle Boardwalk Empire avec Steve Buscemi, Kevin MacDonald et tout, un truc des années 2010 sur la prohibition. Et le premier épisode de la saison 1 était réalisé par Scorsese, qu'on pense pas être un réal qui est très attiré par ce genre-là en général, vu ses positions sur le cinéma en général contemporain, etc. Et il y a, pour moi, ça enfin, il y a ce côté-là un peu que des réalisateurs établis qui font des longs métrages, etc., considèrent peut-être pas non plus forcément le format série comme un lieu où ils ont envie d'aller, indépendamment même de savoir s'ils ont la liberté d'imposer leurs pattes, etc. Enfin. J'ai l'impression qu'il y a peut-être chez les réals certaines formes, j'allais dire, de conservatisme ou de classicisme. C'est très rare. Là, j'ai essayé de réfléchir un peu depuis le début du podcast, savoir quelles étaient déjà les séries dont je connaissais le nom des réalisateurs, ou en tout cas réalisateurs principaux, parce qu'en fait, c'est rarissime. Qui se souvient, c'est ça, de qui a fait tel épisode de telle série. Et en fait, à part David Lynch pour Twin Peaks, j'ai pas trouvé de réalisateur établi... qui soit vraiment comme ça, prêche pas.
Sur toute une série, tu veux dire.
C'est ouais, ça,
sur
ouais.
Sur toute une série, c'est rare.
Le réalisateur, du coup, de la saison 1 de True Detective, c'est celui qui fait le prochain James Bond.
C'est Cary Fukunaga. Ouais, ouais, c'est ça, Fukunaga, ouais.
Mais je crois qu'il réalise tous les épisodes aussi, je pense.
Je sais plus.
Je crois que si, dans True Detective. Ouais.
Il est showrunner.
Il a fait les trois saisons, c'est sûr.
Non, mais la première, je pense qu'il l'a fait intégralement, en tout cas.
Mais c'est bien que tu parles de James Bond un peu, parce que pour moi, dans les séries, il y a un peu ce côté-là aussi avec les grandes sagas. C'est qu'à un moment donné, le mec qui est capable de me sortir la liste des mecs qui ont réalisé des James Bond, impossible.
Sam Mendes.
Mais même, tu vois, mon James Bond préféré, c'est Casino Royale. Je peux pas te dire qu'elle est réelle.
Moi non plus.
Ouais. C'est Sam Mendes.
Non, c'est pas Sam Mendes.
Juste Skyfall et Spectre.
Mais donc il y a ce côté-là un peu. Enfin, il y a.
Quantum aussi, je suis pas sûr. Mais...
Non, je crois pas.
J'espère qu'il l'a
fait. Je crois pas qu'il a fait Quantum.
J'espère qu'il l'a pas fait.
Bon, du coup, Eloi, je te laisse reprendre.
Bah, s'il y a un point sur lequel on en a pas trop encore parlé pour le moment, c'est la diffusion. Et parce qu'on parle de cinéma, on parle de série, on a parlé de l'écran, etc. Et du fait que l'écran, quand tu regardes une série, en général, met moins l'image en valeur. Mais de manière générale, vu qu'on a dit que maintenant, en gros, les séries, ça tout le monde le sait, c'est diffusé sur des plateformes, etc. Ce qui est de plus en plus le cas pour le cinéma aussi, d'autant qu'on voit que les grands studios hollywoodiens ont tendance à basculer leur gros films de plus en plus direct sur des plateformes et tout. Mais ouais, le truc, c'est que si on met de côté le fait que les gros studios hollywoodiens diffusent de plus en plus via des plateformes et envisagent de plus en plus leur stratégie sur les plateformes, Mais il y a quand même un truc, c'est que quand tu vas sur Netflix, c'est quasiment comme si t'étais sur YouTube maintenant. Enfin, je veux dire, t'as le défilement automatique, t'as les trucs comme ça et tout. T'as du contenu très très différent qui est mis côte à côte, et on peut pas dire que leur interface en plus soit qu'elle soit particulièrement claire ou particulièrement précise. C'est-à-dire que même pour un mec qui n'y connaîtrait rien, c'est sûrement trop vague. Et pour un mec qui cherche des trucs en particulier, c'est beaucoup trop général. Donc c'est un peu, ils ont un peu le cul entre deux chaises, mais tout ça pour dire que quand tu vas au ciné, et là je veux dire vraiment au cinéma, ce qu'on ne peut pas faire malheureusement en ce moment.
Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus de ce que c'est.
Venez au mot.
Spécial dédicace pour le mot de la semaine prochaine, 20h15, lundi en blondeau. Il y a ce côté, comment dire.
Tu sais ce que tu vas voir.
Non seulement tu sais ce que tu vas voir, parce que tu as la démarche. Tu as une démarche de te dire, je vais aller voir ce film.
Tu te déplaces, machin. Ouais,
je vais aller voir ce film, je vais pas le regarder juste parce que j'ai du temps à tuer. Ouais. Et ça, c'est l'attitude du spectateur. C'est aussi un point, je pense, qui fait que, aussi pas mal pour les cinéphiles un peu puristes qui vont ne jurer que par le ciné et un peu rejeter la série. Il y a une attitude du spectateur qui est différente. T'es plus investi quand t'es au cinéma, je pense, que quand tu regardes une série. Après, à voir, il faudrait essayer de diffuser des séries au cinéma.
Ouais, c'est vrai.
J'ai pas l'impression que ça se fasse tant que ça, alors que pourtant, pourrait...
C'est vraiment des événements très particuliers. Je pense que, par exemple, là, pour la dernière saison de Game of Thrones, je crois que ça se faisait un peu, parce que voilà, quand c'est des trucs énormes...
Il y a Downton Abbey, je crois, aussi. Ils ont fini par un film. En fait, ça se fait aussi de conclure une série par un film. Il y a eu El Camino, aussi. Donc voilà, mais bon, c'est pas non plus...
Ouais, c'est clairement l'exception.
Ouais, c'est vraiment des trucs...
On est d'accord.
Mais ouais, de ce point de vue-là, il y a quelque chose à tester. Enfin, parce que je suis sûr que si on chauffait les gens, notamment genre une espèce de sortie un peu en avant-première, où on dit « Salut, je m'appelle Netflix, je loue, je sais pas, 50 salles de ciné aux États-Unis et dans le monde. » Et la prochaine saison, j'en sais rien, on va dire un truc au pif, La Casa des Papel, je la passe 3 jours avant la sortie Netflix, non-stop dans une salle de ciné. T'es sûr que les 50 salles de ciné, elles vont être remplies de ouf et que ça va faire un buzz énorme. Donc d'un point de vue, même d'un point de vue totalement cynique de com et de stratégie, ça pourrait avoir du sens d'essayer un peu de diffuser les séries comme on diffuserait des films, plutôt que de diffuser les films comme on diffuse des séries. Parce que je pense que si on a l'impression, et on a un peu tourné autour de cette thématique depuis le début du podcast, que les séries remplacent les films, c'est bien parce qu'on regarde de plus en plus les films comme des séries, je pense. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose à tenter, quoi.
C'est vrai, c'est pas inintéressant.
Déjà, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent les films en plusieurs fois maintenant. Donc quand même, c'est assez...
Les hérétiques, il faut les brûler.
Après, juste... Non, mais pour ton truc de... Moi, je regarde absolument...
Il y en a certains,
c'est pour... C'est un pote. Non, mais en vrai, j'ai juste un truc... Enfin, je pense que c'est matériellement, physiquement impossible de projeter une série comme ça en continu trois jours avant la sortie sur Netflix, parce que déjà, quel cinéma accepte de... Enfin, genre, je sais pas, moi, ça me paraît vraiment impossible. T'as quand même des... Non, mais il y a vraiment un calendrier des sorties et tout hyper, hyper précis.
C'est un coup de com', enfin,
ouais, c'est un coup de com'.
Ça
ouais, je sais pas. En tout cas... En vrai, je pense que t'as raison sur le fait que les clients seraient ravis, en tout cas, les clients Netflix. Après, il y a quand même quelque chose, c'est aussi, faut parler du... C'est un peu le grand truc des plateformes, c'est les algorithmes aussi qui font en sorte que tu sois quand même dirigé vers des trucs... Mais déjà, l'algorithme Netflix s'arrange pour que ce soit les films produits par Netflix et tout qui soient mis en avant... Parce qu'ils sont pas forcément les films de meilleure qualité non plus tout le temps. Et ensuite, ils t'enferment un peu dans un truc qui fait que, genre, je sais pas si tu regardes un truc, sur un film de braquage ou quoi, tu vois, tu te retrouves avec 10 films de braquage dans tes suggestions et, genre, tu te retrouves un peu coincé dans un truc. Je pense pas que ça ouvre des perspectives assez folles. Et le meilleur exemple de ça, je pense, c'est cet été, il y a eu l'arrivée du catalogue MK2 sur Netflix, donc avec les Xavier Dolan.
Les Truffaut,
les Lynch. Il y a eu plein de trucs, franchement. Et pourtant, quand tu regardes, ça arrive assez rarement dans les suggestions. Enfin, en fait, ça arrive dans les suggestions de certaines personnes. Mais je pense, dans le grand public, ça arrive pas dans tes suggestions, vu que tu regardes. En fait, tu regardes pas ça. Enfin, genre, la majorité des gens qui consomment Netflix vont pas naturellement taper Truffaut dans la barre de recherche, tu vois. Donc c'est un petit peu problématique.
Il y a une rubrique où il pop pas mal quand même, c'est celle film primé ou film classique. Ouais.
C'est vrai. Faut quand même descendre. C'est pas tendance actuelle.
Ils ont pas mal mis en avant tous les Miyazaki, Studio Ghibli et tout.
C'est quand même gros. Notre
génération quand même de personnes qui ont grandi avec ça et qui donc même aujourd'hui les ont regardés tous en masse, etc. Et donc là effectivement ils ont beaucoup vu dans les tendances quoi.
Camille, t'avais pas l'air d'accord sur l'algorithme Netflix.
Ah, mais si, au contraire.
Ah, ok, d'accord.
Les films Truffaut, Xavier Dolan, enfin, même après l'arrivée du. Tu vois, moi, c'est des trucs que j'aurais tendance à regarder, mais jamais je les ai vus sur la page d'accueil de Netflix, quoi. Donc, clairement, non, c'est pas dans la stratégie de Netflix de montrer ça, parce que c'est pas ce que les gens veulent voir de manière générale.
Parce que, faut quand même juste le dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui le savent pas. Il y a énormément de trucs sur Netflix. C'est-à-dire que t'as des films. Non mais vraiment, ouais, ça doit être ça.
En continu, ça durait 4 ans.
D'accord. Ça en continu, c'est 4 ans.
Pas mal, ok.
Et ça, en plus, ça fait...
Il n'y a rien, ouais. Je sais pas que j'y vais.
Mais c'est parce que... Enfin, moi, je traîne un peu dans l'onglet nouveauté et tout, un peu chaque semaine pour voir ce qui sort. Et des fois, t'as des trucs... Enfin, genre là, il y a plein de films, scandinaves qui sortent, par exemple. Des vieux films des années 20 et tout, des trucs vraiment de niche de ouf. Ouais, non, mais vraiment, il y a des trucs... Si tu vas sur Netflix, dans les nouveautés... Tu vois qu'il balaye plein de trucs. Et t'as aussi... t'as pas mal de films... égyptiens aussi qui sont sortis l'année dernière. En fait, t'as des films de patrimoine, il y en a sur Netflix. On peut pas leur... on peut pas leur faire le procès de ne pas en mettre. Le seul truc, c'est que... Enfin, c'est tellement dans les bas-fonds du site, de l'appli ou du site, que franchement, à part si vraiment t'es au courant, t'as vu passer un article ou quoi, et encore, faut suivre les sites spécialisés... c'est quasiment impossible pour le grand public d'y avoir accès, quoi. Et c'est pareil un peu pour les autres plateformes, même si Netflix, ils sont quand même particulièrement agressifs sur, je trouve, sur les taux, là. En gros,
ils t'enferment un peu dans une catégorie de films, mais notamment... Bah, et aussi parce que je pense que c'est la seule plateforme qui produit à ce point-là. Je veux dire, toutes les plateformes produisent un peu... Mais Netflix, c'est colossal, quoi. Toutes les semaines, il y a plusieurs productions signées Netflix, qu'il s'agisse de films ou de séries. Et forcément, c'est ceux-là qu'on va mettre en avant d'abord, c'est ce que tu as dit. Et j'ai l'impression que les films de patrimoine, ils sont d'abord là pour se donner une espèce de caution. Tu vois, ça va faire joli, on va écrire 2-3 articles pour dire « Non, regardez, Netflix s'ouvre au cinéma d'auteur, c'est là pour l'éducation des foules, etc. » Mais qu'en fait, dans les faits, comme tu dis, c'est relégué au fond, dans les fonds du catalogue, et que c'est pas fait pour être vu. Parce qu'effectivement, si tu sors, si tu vois un film de 2h30 au rythme assez lent, très intéressant, mais contemplatif, etc., derrière, tu vas pas avoir envie de re-regarder un deuxième film comme ça. Et le but de Netflix, c'est que tu restes 10 heures sur la plateforme, pas que tu restes 2 ou 3 heures. Donc, c'est ça. Je pense que vraiment, c'est une opération de com'. Alors, finalement, tant mieux. Je suis très content qu'ils y soient concrètement, mais que ça va pas vraiment au-delà, aux yeux de Netflix, quoi.
Mais après, la limite de cette stratégie et un peu la conséquence que ça peut avoir, surtout vu, le peu d'argent qu'on investit pour avoir un abonnement Netflix pendant un mois, quoi, c'est que ça démonétise un peu tout. C'est-à-dire que il y a aussi cette différence, quand tu vas au cinéma, tu vas payer 8 balles pour voir ton film. Genre, là, tu payes 8 balles, tu peux regarder 100 films si tu as envie. Donc forcément, à un moment donné, même si on n'aime pas penser le cinéma ou les séries d'un point de vue financier, mais à un moment donné, quand tu vas voir un film qui te coûte ce que pourrait te coûter 100 films sur une autre plateforme, ton investissement, il n'est pas le même. Et y a un peu ce côté-là aussi, de toute la démarche. C'est que du coup, ces films un peu d'auteurs qui sont perdus dans les tréfonds de Netflix, ils en perdent de leur intérêt. C'est-à-dire que, en gros, les gens qui vont les voir sont des gens qui ont la flemme d'aller soit s'acheter les DVD s'ils sont encore trouvables, ou d'aller les trouver sur des sites de loc à 3-4 balles et qui se disent tiens, si jamais c'était sur Netflix, je vais pouvoir le regarder gratos. Parce qu'en gros, qui prend Netflix pour avoir accès à ce genre de contenu? Il y a aussi ça, genre Netflix a doublé son nombre d'abonnés en 2 ans entre 2018 et 2020. Ils sont passés en gros de 110 à 200 millions d'abonnés. Je pense que sur ces 100 millions d'abonnés qui sont ajoutés en 2 ans, il n'y en a pas beaucoup qui s'y sont ajoutés parce que tout d'un coup, ils ont pu voir Lost Highway de David Lynch, même si c'est un des meilleurs trucs qui est sur cette plateforme.
Ouais, non,
salut, toi.
Totalement.
Donc,
Du coup, alors j'ai quelques trucs à dire. Donc, juste pour rebondir sur ce que disait Sam il y a quelques minutes, je pense qu'en fait, l'objectif à terme de Netflix, enfin, en tout cas, je pense que le rêve ultime de Reed Hastings, ce soit qu'il y ait uniquement des productions Netflix sur Netflix. En fait, enfin, il n'y aura jamais uniquement des productions Netflix, mais que, disons, tous les nouveaux ajouts Netflix, ce soit des productions Netflix. Et c'est, je pense, c'est comme ça que, de toute façon, ils envisagent l'avenir, et on le voit de plus en plus, toutes les semaines, comme tu l'as dit, il y a des nouvelles séries, maintenant ils produisent énormément de films, ils vont chercher des très gros réalisateurs. Enfin, quand il y a Scorsese, enfin, Scorsese a lancé un peu le truc, mais maintenant t'as Fincher, enfin, qui a déjà fait une série et un film pour eux.
Il y a Cuaron
quand même. Enfin, et en même temps, ce qui est aussi important, je pense, à souligner, c'est que Netflix, enfin, c'est pas le diable, parce que justement, ils offrent quand même la possibilité à des réalisateurs de faire des films que leur, enfin, que les studios leur refusent. Et des, enfin, Cuaron, il a quand même fait Roma, c'est quand même un sacré film. Et bon, il y a que Netflix qui lui a filé la thune pour qu'il le fasse. Et du coup, c'est aussi pour ça que, et comme on voit le dernier Scorsese, je crois que ça va être Apple TV. Exactement. Et en fait, c'est aussi, enfin, faut pas les blâmer, parce que ça permet à des gens de faire des films qu'ils auraient peut-être pas pu faire, ou qu'ils auraient dû revoir leurs ambitions à la baisse avec des studios classiques. Et il y a un deuxième truc que j'aimerais dire, c'est juste pour une sorte de petit contre-exemple, et c'est pas du tout par chauvinisme, mais pour le coup, sur OCS, il y a quand même, je trouve, ils mettent beaucoup plus en avant les films, disons, plus soit des films un peu plus iconoclastes, soit des films du passé. Et dans le catalogue OCS, il y en a plus. Et ça arrive qu'en arrivant sur la page d'accueil OCS, on voit genre une collection David Lynch ou une collection Visconti. Donc c'est vraiment c'est une autre approche, peut-être plus française aussi, du cinéma. Donc voilà.
Mais après, pour financer des projets un peu comme Roma ou The Irishman ou des trucs comme ça, le problème, c'est que...
Mariage Story, c'est incroyable. Ouais.
C'est vrai, c'est quand même, avec la meilleure actrice du monde.
Et j'adore Adam Driver aussi.
La meilleure actrice du monde, c'est Adam Driver. Hein. Mais ouais, non, le problème, c'est que, même si je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'objectif in fine du boss de Netflix, de n'avoir quasiment que du contenu Netflix sur sa plateforme, financièrement, c'est intenable. Parce que le problème, c'est que ils ont des dépenses qui sont comparables à celles de la Warner ou de la Paramount, enfin, les énormes studios américains, sauf qu'ils font des revenus qui sont bien inférieurs, parce que pour les mêmes raisons que ce dont on parlait du point de vue du mec qui regarde sa série ou son film, bah, eux, ils sont de l'autre côté de l'équation. Ouais. Ils font moins de moulaga en vendant des abonnements à 14 euros qu'en vendant des places de ciné. Il n'y a pas de secret. Donc si ils misent juste sur la production de leur contenu, soit ils vont te faire payer le vrai prix de ce que ça coûte que de faire des films, et auquel cas, bah, d'un coup, ton abonnement Netflix, il va tripler de prix, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Soit ils vont être obligés de miser sur du contenu extérieur à leur plateforme, parce que sinon, c'est injouable. Donc il y a quand même cette contrainte financière, même s'ils sont très puissants financièrement, et qu'ils sont en expansion, etc., ils ont les mêmes contraintes financières que n'importe qui fait un film. Donc de ce point de vue-là... concernant le financement de réalisateurs qui ne peuvent pas faire leurs projets ailleurs, je pense qu'à passer un moment donné, ils vont aussi refuser à ces réalisateurs de faire ces projets. En ce moment, ils le font parce que ça élargit leur portefeuille et leur diversité, et ça leur fait des super coups de pub. Mais passé un certain moment, s'ils décident d'aller au bout de leur logique, il va falloir qu'ils disent à Scorsese ou à n'importe qui, bah non, ton film, on ne le fait pas parce qu'on n'y croit pas. Plutôt que de juste d'avoir un argument marketing, de dire Scorsese a un film sur notre plateforme et il l'a fait pour nous.
Ouais. C'est vrai d'ailleurs que souvent, finalement, même quand c'est des très grands réalisateurs qui signent des films Netflix, c'est souvent pas les films les plus reconnus de leur filmographie, et il y a beaucoup de déceptions en général. Alors moi, j'avais beaucoup aimé The Irishman, mais je sais que beaucoup de personnes avaient été déçues par le film. J'ai pas encore vu le dernier Fincher, mais pareil, apparemment, il divise beaucoup. Même Roma avait pas mal divisé tout de même, parce que beaucoup de gens le trouvaient certes beau mais assez vide. Donc peut-être qu'effectivement il y a, même quand on parle de très très grands grands réalisateurs, ce manque de sélection, et donc une qualité qui en pâtit un peu. Et encore une fois, bah, c'est, je pense qu'on va revenir
enfin, au constat général sur Netflix, c'est-à-dire que Netflix joue un peu tout sur les apparences, quoi. Et donc bah, là, c'est pareil, on va miser sur un gros nom, et peu importe finalement ce qu'il fait, c'est même pas très important, et c'est même pas si important que ça que les gens le voient d'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'on sache que Netflix a produit tel ou tel nom. Donc, c'est sûrement, d'après moi, la problématique majeure avec ce mode de fonctionnement. Donc.
Mais de ce point de vue-là, ça pose une vraie question sur la voie de la série indépendante aussi. Parce que le truc, c'est qu'on se dit, des films indépendants, il y en a plein qui existent, parce que justement, ils ont la possibilité d'avoir accès au réseau de distribution. Pas mal, enfin, ils peuvent se faire diffuser au cinéma si jamais ils ont un distributeur et qu'ils ont des gars dans leur équipe qui arrivent à vendre leurs films un peu. Alors que le truc, c'est que tu te dis, des séries, sauf à les diffuser à la télé, maintenant, t'es vraiment entre les mains de deux, trois grosses personnes. En gros, tu vas avoir, si on met de côté Salto, qui est totalement in. Mais en gros, entre Amazon, Netflix et HBO Max, t'as fait vite le tour de ce que les gens prennent comme abonnement.
T'as quand même Canal en France aussi qui reste, ouais. Quand même très important.
Oui, mais tu vois, après, c'est pour ça que j'ai mis de côté la version télé, j'allais dire, parce que bon, je considère encore que Canal, c'est de la télé. C'est leur héritage, etc. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie question. Est-ce qu'on va pouvoir faire... Enfin, j'ai exclu aussi Arte... Ouais, mais c'est ça.
Mais Thérapie marche très très bien quand même.
Ah oui, ça marche de ouf. Ça marche de ouf. C'est pour ça que je me suis senti obligé de mettre de côté un peu.
Non, mais même il y a des séries originales OCS, mais qui sont plus des séries américaines d'ailleurs que des séries françaises. C'est un peu étrange. Je sais pas, il y a des séries qui sont marquées originales OCS. Et genre, mais sauf que c'est des acteurs, genre, je sais pas, c'est Patrick Dempsey,
tu vois. C'est surtout
Patrick Dempsey. Il a la voix suave.
La voix suave. Bon, et vas-y, continue, du coup, Eloi, on t'a coupé, désolé.
Ouais, l'industrie de la série est vraiment encore plus concentrée que l'industrie du cinéma. Surtout que, ben, tu vois, si tu veux, à la limite, tu pourrais te dire, ouais, mais à la limite, les séries indépendantes ont encore leur chance à la télévision, etc. Mais ben, l'abonnement Canal, il faut le payer. L'abonnement Netflix, il faut le payer. L'abonnement Amazon, il faut le payer. Donc, à un moment donné, le problème, c'est que comme les gens sont habitués à payer peu pour avoir accès à beaucoup de contenu, si tu es une série indépendante, comment est-ce que tu te diffuses autrement que sur une énorme plateforme qui va peut-être se fermer sa porte parce que c'est plus dans son intérêt de t'accueillir? Et de ce point de vue-là, il y a une vraie question parce que on a beaucoup mis en opposition cette faculté qu'a le cinéma d'avoir deux facettes, art et essai, et de l'autre côté... grosse machine Afrique. Il y a cette question de savoir est-ce qu'on pourra avoir le même dualisme dans le monde des séries art et essai. Enfin, c'est un terme que j'ai jamais entendu dans la bouche de personne. Et ça ne veut pas dire que les séries à gros budget ne peuvent pas être bonnes. Et c'est pareil avec les films à gros budget. Enfin, moi, j'aime bien aller voir Mad Max Fury Road. Il y a un budget énorme et pourtant, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais il y a ce côté-là, je pense que pour que les séries acquièrent de la crédibilité et pour que peut-être que Netflix arrête de faire des gros coups en invitant des gros réals pour faire des films dont tout le monde se fout au final juste pour la cred, bah, il faut que les séries se donnent le moyen aussi d'avoir leur penchant un peu, j'allais dire un télo, même si c'est un peu négatif. Mais il faudrait qu'on ait un équivalent de la nouvelle vague au sein des séries, quoi. Il faudrait qu'on ait des mecs un peu qui partent un peu la fleur au fusil, qui fassent une série comme ça.
Mais ouais, mais c'est bien, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et ça va avec quelques points qu'on a évoqués par le passé. Parce que pour moi, le cinéma indépendant, tu vois, le cinéma indépendant, il marche aussi énormément grâce à un public fidèle, enfin qui est vraiment intéressé par ça et qui se déplace en salle. Disons que c'est pas Netflix produit, enfin je sais pas si Netflix produit des films indés, mais ça serait un peu paradoxal, ça serait un peu oxymorique, c'est plus très indépendant, quoi. Mais bon, mais en tout cas, enfin des films même à l'imagerie indé, on va dire, tu vois, on sait jamais. Mais en gros, bon voilà, c'est déjà ça me semble pas être le cas non plus, et du coup c'est aussi pour moi le cinéma indépendant, c'est quelque chose qui vit grâce à la salle. Ou grâce, enfin pour vraiment des cinémas très très indépendants, grâce à du direct ou VOD, mais avec genre un public très restreint, quoi. Mais ça, parce que surtout en France, enfin on est bien placé pour le savoir, il y a énormément de cinéma à réessayer, on est un des pays au monde où il y en a le plus. Et donc franchement, enfin pour moi ça joue énormément le côté salle de cinéma dans le cinéma. Et il y a un autre point aussi qui est les festivals, parce que genre pour le cinéma indépendant, les festivals, c'est très important. Sundance, Tribeca, enfin, il y a plein de festivals de films indépendants. Même Gérard May pour les films d'horreur, les films de genre, comme on dit. C'est très important. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi quelque chose qui n'existe pas pour les séries. Enfin, en tout cas, je n'ai pas connaissance d'un festival de séries. Ou si ça doit... Bah, c'est compliqué à mettre en forme.
Le Festival de Cannes a un dérivé pour les séries, il me semble. Il y a des choses qui émergent, mais c'est vrai que là, on en revient à la question du format. C'est jouable de diffuser un film en une soirée pour une cérémonie. C'est compliqué de le faire pour une série. Donc au final, quand ils font quand on va faire un festival, on va diffuser peut-être le premier, le deuxième épisode. Mais bon, on ne va pas avoir l'œuvre entièrement, quoi. Et donc c'est vrai qu'on en revient un peu à ce problème-là. Mais j'ai l'impression que ça commence à émerger. Je n'ai pas énormément d'exemples en tête, mais il me semble au moins qu'il y en a un pour le Festival de Cannes. Ouais, voilà.
Et t'as... C'est ça. Series Mania aussi.
Si, ouais, c'est à Lille, c'est à Lille, Series Mania. Ah, ouais, c'est vrai, mais bon. Ouais, je pense que c'est, tu vois. Mais disons que ça a quand même. Enfin, du coup, dans les festivals de séries, il n'y a pas de festival de séries indépendantes, vu que les séries indépendantes n'existent pas. Mais du coup, c'est un peu compliqué de voir émerger vraiment des propositions totalement originales et vraiment différentes dans le monde de. Enfin, en tout cas, dans l'univers de la série. Il y a aussi un truc qui est encore plus prégnant, je trouve, que dans le cinéma, et pourtant c'est déjà bien le cas, même si, bon, encore une fois, en France, on a quand même de la chance d'avoir pas mal de films, enfin, avoir des propositions, enfin, une richesse de la distribution en salle, et qui fait que, finalement, on n'est pas obligé de se taper, enfin, il n'y a pas que Avengers au cinéma, quoi. Pour le coup, dans la série, c'est quand même... ultra dominé par le... Enfin, moins avec Netflix, avec les contraintes européennes, mais c'était quand même pendant un temps très dominé par le cinéma américain, par les codes américains, par la culture américaine, ce qui fait que... Enfin, il y a quand même eu ce biais-là qui, à mon sens, n'a pas affaibli un peu la diversité qu'on trouve dans le cinéma. Et même si, voilà, comme je le dis, Netflix produit énormément de séries européennes, mais là encore, il y a un autre biais qui se dessine. C'est qu'en fait, quand on regarde les séries européennes produites par Netflix, séries américaines. C'est exactement ça. C'est ce que, du coup, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, les gars.
Non, mais ça, c'est vrai au niveau de la production en France et je pense dans pas mal de pays en dehors des États-Unis, il y a un déficit parce que j'ai pas l'impression que, si on prend l'exemple français, si on met de côté Canal, j'ai pas l'impression que les habituels. Pourvoyeurs de fonds, on va les appeler comme ça, du cinéma français, s'investissent énormément pour créer vraiment des séries. Genre TF1, etc., ils vont passer des séries sur leur chaîne, etc. Ouais. Mais ils n'ont pas d'équivalent au Bureau des Légendes dans leur catalogue.
Ils ont Joséphine Ange Gardien, c'est déjà pas
mal. C'est ça, ils passent Petit Secret entre voisins. Voilà. Le samedi à 6h du mat.
Sur France 3. Hein.
C'est ça. Non mais, quoi qu'il en soit, c'est un problème. Enfin, c'est pas un problème dans le fond, mais en tout cas en France, on a la chance d'avoir une industrie qui financièrement fonctionne plutôt pas mal. Si en tout cas on compare avec les autres pays, le cinéma français va vachement résister. On a un système de financement, etc., avec le CNC et tout, qui est quand même assez intelligent et malin.
Le chronologie des médias.
Et pour ce qui est du penchant série de l'audiovisuel en France, de ce point de vue-là, il y a quand même visiblement non seulement une volonté qui est moindre, parce qu'encore une fois, quand on voit l'investissement que peuvent mettre Canal, entre autres, quand il s'agit d'acheter des droits pour mater du sport ou des trucs comme ça, on se dit qu'ils pourraient investir des fortunes pour produire des séries qui auraient, en termes de financement, rien à envier avec des super productions américaines, quoi. Et que comme on voit qu'en plus, de plus en plus, quand même, la série est un média qui... En tout cas, un format qui tend quand même à s'internationaliser un peu plus. C'est-à-dire qu'on voit, même si bien sûr, Lupin, etc., par exemple, une série produite par Netflix, mais il n'empêche que ça reste une série avec Omar Sy en personnage principal, ce qui n'est pas évident pour une audience non française, même s'il a fait ses petites apparitions dans Jurassic Park et tout.
Ouais.
Enfin bref.
Je ne suis pas sûr encore que ce soit une méga star.
Normalement, ce n'est pas une méga star à LA, etc. Ouais. On le voit de plus en plus. On est peut-être dans une phase, enfin, il faudrait voir, confirmer, etc. Mais on est peut-être dans une phase où on a une certaine forme d'internationalisation de la série et du cinéma aussi, de manière générale. Mais
pour le coup, là, même si c'est la même chose, c'est les mêmes codes, mais La Casa des Papel, c'en est un plutôt bon exemple aussi.
Ah oui, c'est ça.
On aurait du mal à. Enfin, alors, je connais pas un film espagnol qui a été un carton mondial, quoi. Non mais vraiment, genre, je veux dire populaire.
Ouais.
Parce que Almodovar, c'est critiquement, évidemment, c'est immense, mais d'un point de vue populaire, la plupart des gens vont pas voir les films d'Almodovar. Et là, je pense qu'il y a une proportion de personnes qui ont vu au moins la saison 1 de La Casa de Papel dans le monde, qui est pas négligeable, quoi. Et donc là, ouais, de ce point de vue-là, je serais assez d'accord avec toi. Mais effectivement, parce que, Godefroy, t'as raison, ces séries-là, certes, elles sont pas américaines, mais en fait, elles sont américaines.
Mais c'est ça, mais parce qu'elles ont, voilà, elles ont la possibilité d'être distribuées,
ouais,
comme des énormes productions américaines. Mais ça, il n'y a pas de secret. Hein. Si les trucs ne te sont pas mis sous la gueule, à un moment donné, tu ne les vois pas, quoi.
Mais du coup, juste pour parler au niveau du succès public et populaire, je pense pas que ça concerne que les séries. Je pense qu'en fait, les États-Unis et l'industrie américaine a réussi à imposer des codes qui font que de toute façon, si tu veux être un blockbuster, même au niveau des films, il faudra que tu t'adaptes. Enfin, on l'a vu, en tout cas, ce qu'on a vu en France, c'est que les énormes succès du 21e siècle dans le cinéma français, c'est Luc Besson, quoi. Ouais. Genre
à l'international.
À l'international. Ouais. Non, non, mais en France, bien sûr, si tu parles du blockbuster français, franco-français, c'est voilà, tu regardes Les Tuches, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça fait Les Lâchetis de famille. Ouais, Intouchable, c'est. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a Intouchable.
Je veux dire, en termes de Paris.
C'est vrai. C'est Toledano et Nakash. Toledano et Nakash, ils le font souvent. Enfin, à peu près. En fait, si t'as quelques personnes qui trustent ça, mais à l'international, ça s'exporte assez peu. Même si Intouchable a eu le droit à son remake et tout.
Mais ouais.
Ou sinon, t'as eu forcément The Artist, mais c'est un cas très très particulier.
Et puis, on parle de The Artist, déjà, c'est un cas particulier en termes de succès au cinéma. C'est un ovni total, ce film. Mais en plus, c'est un ovni même dans la filmo de Hazanavicius, et quand tu vois le cast et tout, comment est-ce que tu passes de OSS à The Artist avec le même réal et les mêmes acteurs? C'est hallucinant de ce point de vue-là.
Ouais.
Mais d'un autre côté, c'est parce que le film a été repris par, alors, ces figures éminemment controversées dont il ne faut pas trop faire la promotion par aucun moyen, mais c'est parce que ça a été repris par un ponte, quoi, par Harvey Weinstein. Mmh. Si le mec avait pas dit ce truc-là, je vais le vendre aux States, je vais en faire un film oscarisable, etc., probablement que le truc aurait pas suscité d'intérêt aussi fort. Moi, je me souviens à l'époque, genre dans le métro, je me souviens des affiches de The Artist qu'on avait vues au début quand le film sortait au cinéma, puis elles avaient disparu, et puis d'un coup, on les a vus tous reparaître avec 50 mentions de nomination à droite à gauche, parce que d'un coup, le film a changé de dimension, parce qu'il a trouvé un producteur énorme, des diffuseurs énormes, il n'y a pas de secret, quoi.
C'est
donc,
du coup, pour recentrer un peu sur quand même notre thème du jour, qui est la série, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure sur notre débat depuis tout à l'heure, ou... Enfin, qui veut prendre la parole en premier?
Je sais pas trop comment conclure, c'est compliqué, mais oui, pour résumer, je pense que si on souligne un peu les points les plus importants de ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la série quand même reste encore, et c'est peut-être la faiblesse majeure du médium aujourd'hui, très dépendante du système de distribution américain, ce qui la formate quand même en large partie et empêche l'émergence de propositions un peu originales, et que, effectivement, s'il y a des critiques à faire sur la série, elles sont pas essentielles, mais elles sont vraiment conjoncturelles. Elles sont sur la manière dont se font les séries aujourd'hui, mais qu'effectivement, sur le papier, on l'a vu, ça a été fait parfois, il y a des très belles choses qui sont envisageables, et qu'on peut qu'espérer qu'il y en ait plus à venir, même si c'est mal parti.
Bah écoute, du coup, pour compléter cette conclusion, je vais plus me focaliser sur le point de vue artistique. On l'a dit pas mal sur comment la série se positionne par rapport à la mise en scène. On a vu que c'était pas secondaire, mais relégué quand même.
Je pense que ça dépend aussi des séries.
Ça dépend un peu, mais en tout cas, dans la perception qu'en ont les gens, ce qui est quand même important, je pense que même des gens qui sont très très friands de séries vont rarement défendre la série par rapport au cinéma de ce point de vue-là. Et puis on l'a vu aussi sur la capacité de la série à sortir un peu du côté série blockbuster. Parce que malgré tout, les séries dont on en parlait paraissent tous avoir été tournées pour être des cartons énormes. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut penser un modèle pour la série, un modèle artistico-financier qui permette à la fois de ménager les intérêts pécuniers et en même temps une forme de création artistique qui donnerait une forme de notoriété cinéphile un peu pédante, mais qui est quand même ce qui manque à la série un peu pour que les gens la regardent comme ils regardent un peu le cinéma. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des, ouais, il y a des tas de perspectives. En même temps, c'est un peu excitant d'imaginer ce qui va se passer à l'avenir, quoi.
Du coup, merci Eloi pour cette dernière note optimiste. Merci Sam. Merci notre intervenant exceptionnel Camille. Et merci à Dauphine qui nous a quittés en cours de route. Mais on pense à elle fort. Du coup, voilà, on conclut sur une note optimiste. Et il y a eu quelques esquisses plutôt intéressantes quand même qu'on a pu évoquer, notamment sur l'indépendance des séries dont Eloi a parlé. Et donc voilà. Et sinon...
On se retrouve pour un prochain podcast très bientôt.
On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast avec la régularité légendaire de Rembobiné. Merci à tous. Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Incroyable.